Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
D'avant Noël, avec les chants extraordinaires qu'on a eus, qui nous ont rappelé justement le vrai sens hein, de Noël, le vrai sens de pourquoi on fête ce qu'on fête dans quelques jours. Je pense que moi, ces chansons-là, chaque fois que je les entends, que je les lis, que je les chante, ça me rappelle encore plus, même si les deux dernières années, j'en ai entendu beaucoup. Julie a enregistré un CD de Noël, fait qu'on l'a entendu beaucoup. Avec les jeunes qui chantaient la chorale, même au mois de mars passé, on entendait les chansons de Noël. Et cet été, c'est sûr que l'effet fait qu'on porte moins attention, mais ce matin, je relisais les paroles. Je revoyais le sens de ces chants-là, de ces cantiques-là. Puis combien c'est merveilleux de pouvoir méditer sur le fait que Dieu est venu sur terre, qu'il s'est incarné, qu'il est devenu homme, pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous racheter. C'est un petit peu de ça que je vous parlais ce matin. Et puis, vous savez, la réalité humaine, le contexte de nous en tant qu'êtres humains, ce qui vient nous chercher, ce qui vient nous bouleverser souvent, c'est toute cette réalité qu'on vit en nous-mêmes, dans notre tête, dans nos émotions. Comment est-ce que toute cette boule souvent d'émotions qui nous anime va diriger nos vies? Puis ce matin, avec les quelques partages qu'on a eus, on a parlé de beaucoup de sortes d'émotions qui viennent nous animer. Déjà avec le psaume 147 que Pasteur Jean-Sébastien lisait tout à l'heure, on voit dans ce psaume-là, on voit la peur, on voit la crainte, on voit toutes sortes d'émotions qui viennent nous saisir, qui saisissaient le psalmiste et qui nous saisissent ces émotions-là. Puis Dieu a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que ces émotions, cette charge-là va souvent diriger ce qu'on fait, va souvent nous motiver, nous faire, on va figer sur place, on va fuir, on va se battre à cause de ces émotions qui viennent nous envahir. Mais ce qui est intéressant dans ça, c'est que Dieu, comme dans toute chose, ne nous laisse pas orphelins. Parce que vous savez, c'est quoi un orphelin? Un orphelin, c'est quelqu'un qui a pu ni père ni mère. Un orphelin, c'est quelqu'un qui est, pour ainsi dire, laissé à lui-même, qui n'a plus de ressources. Puis combien de fois est-ce que nous, dans notre état, dans ce que nous sommes, dans qui nous sommes, on se sent comme ça. On se sent comme ces orphelins-là qui sont dans un coin, dans une chambre sombre, qui sont pétrifiés peut-être. Peut-être que des fois, on est assis dans un coin où est-ce que la pièce est sombre. On ne voit rien autour de nous, on ne voit pas. On a peut-être le nez contre le coin de la pièce. Puis peu importe où est-ce qu'on tourne le regard, parce qu'on est persuadé qu'on est obligé d'être dans ce coin-là, peu importe où est-ce qu'on tourne le regard, non seulement la pièce est sombre, mais tout ce que je vois, c'est un mur froid. Puis on veut se sentir au piège. Puis cette émotion-là de ne pas avoir de ressources, cette émotion-là d'être comme un orphelin qui ne sait pas où se tourner, combien de fois on va la ressentir, cette émotion-là? Combien de fois est-ce que le souffle, peut-être, notre respiration va commencer à s'accélérer? Combien de fois est-ce que le rythme cardiaque, les battements du cœur, de notre cœur, vont battre de plus en plus vite? La sueur va commencer à nous couler, les sueurs froides, les frissons. Puis souvent, on ne sait même pas pourquoi. Il y a comme une panique qui nous anime. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas de ressources. Tout ce qu'on sait, c'est comme un orphelin qui est assis dans un coin d'une pièce sombre, qui ne sait pas où se tourner, qui a beau crier, mais personne n'entend, personne n'écoute. Combien de fois est-ce qu'on se sent comme ça? Bien, ce sentiment-là de peur, ce sentiment-là de crainte, ce sentiment-là d'impuissance qui fait que parfois ça nous glace les veines, parfois on ne sait pas où se tourner, on ne sait pas où s'en aller, on ne sait pas vers qui se tourner. Bien, ça nous fiche. Puis c'est des sentiments qui sont réels. Puis on pourrait penser que Dieu, ben, il s'en fiche de ça. Puis c'est ce qui fait souvent qu'on ne se tourne pas vers lui. Parce que peut-être qu'on est persuadé qu'il m'a oublié dans ce coin-là puis qu'il fait partie de ceux qui m'ont abandonné. Ça serait un mensonge à croire. Ça serait croire un mensonge de penser que Dieu nous a abandonnés dans ce coin-là. Puis Dieu a beaucoup de choses à dire sur la crainte. A beaucoup de choses à dire sur la peur, sur l'inquiétude, sur ce qui nous glace les veines, sur ce qui nous fige. Dieu a beaucoup à dire là-dessus. Mais il n'y en a pas seulement à dire, il y en a à faire. Tournez avec moi dans Luc, au chapitre 1. Luc, chapitre 1, c'est un évangile, vous savez, l'épître de Luc et Luc qui en est l'auteur. C'était un homme qui était très, très précis, très consciencieux, qui a pris le temps d'écrire. Et parmi les choses qu'il a racontées sur tout ce qui entoure la vie de Jésus, la vie du Messie, la vie de Dieu fait homme, mais parmi ces choses-là, il nous a parlé de Luc, justement. Du début de Luc 1, verset 74. Luc 1. On va commencer un petit peu avant, là, verset 67. Il parle de la prophétie de celui qui allait venir avant Jésus, hein, qui allait s'appeler Jean-Baptiste. Celui qui allait venir avant Jésus, qui allait parler de celui qui viendrait, donc qui allait parler de Jésus. Et Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste, va prophétiser. Il va être saisi de l'Esprit de Dieu, puis il va parler, puis il va dire ceci. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte. Il y a deux, trois mots que je veux mettre l'emphase dessus dans ce passage-là ce matin. Premièrement, Christ est venu. On va fêter sa venue dans quelques jours. Christ est venu et Christ nous permet, nous rend possible. C'est pas juste une autorisation qu'il nous donne. Il rend possible. Il fait en sorte qu'on peut le servir sans crainte. Alors, ce sentiment-là qu'on peut sentir quand on se croit démuni, quand on se croit impuissant, quand on se croit dans cette pièce sombre comme un orphelin assis dans un coin, sans ressources, sans personne vers qui se tourner. C'est malheureusement ça. Ce n'est qu'une impression. Dieu, au contraire, nous permet, nous rend capable de le servir sans crainte, sans peur, sans avoir besoin d'être dans cette pièce sombre, le nez collé contre le coin du mur, sans avoir nulle part où regarder. C'est une pièce bien sombre qu'on s'est construite, dans lequel on s'est enfermé. Parce que Dieu nous permet de le servir sans crainte. Vous savez, quand les jardins zoologiques, les zoos ont bien changé avec les années. il y a bien longtemps, quand les eaux ont commencé, ben, souvent les bêtes sauvages étaient attachées et les gens pouvaient aller les flatter. Bon, ça a changé relativement vite parce qu'il y a plusieurs personnes qui y passaient. Alors, des personnes qui se faisaient arracher un bras par un lion que tu vas flatter, ils ont décidé de mettre les animaux dans les cages avec une distance parce que les gens ne pouvaient plus aller flatter l'animal. Et là, évidemment, ça a changé encore parce qu'on s'est rendu compte que ça n'a pas de bon sens. Regarde la belle bête qu'elle est dans la nature, puis regarde, elle est seulement l'ombre d'elle-même. Elle est dans une cage, souvent blessée, souvent, comme elle n'est pas capable de bouger, les plaies, hein, comme les plaies de lit qu'on peut avoir quand on est couché trop longtemps sur un lit. Mais les animaux étaient massacrés comme ça à cause des cages qui étaient toutes petites. Et on décidait d'agrandir les cages. Les animaux pouvaient se promener un peu plus dans la cage. Puis à un moment donné, ils ont réalisé, mais peut-être qu'on pourrait leur faire des enclos plus grands parce qu'ils pourraient avoir un semblant de naturel. T'sais. Puis ils ont monté les cages. Puis ils ont transféré les animaux qui avaient passé leur vie, leur vie complète dans une cage. Ils ont mis dans ces genres d'enclos-là plus grands pour se rendre compte que les pauvres bêtes étaient tellement habitués de faire le tour de leur cage que dans l'enclos plus grand, ils faisaient quand même le tour de leur cage. Ils n'osaient pas sortir de ce petit enclos-là. De cette cage imaginaire, elle était rendue imaginaire. Mais ces animaux-là étaient encore esclaves de leur imagination. Un peu comme quand on va dans le sud, je suis sûr que certains d'entre vous sont déjà allés, on voit ces magnifiques perroquets. Puis ils ne sont pas attachés après leur support. Tout ce qu'ils ont, c'est une bague autour de la patte. Ils sont persuadés qu'ils sont encore attachés. Alors, ils ne s'envolent pas. Ils pourraient s'envoler. Mais ils ne s'envolent pas parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont encore liés, encore attachés à leur support. Mais le seul lien qu'ils ont, c'est dans leur tête. Puis combien de fois, moi, quand j'étais là avec Julie, je regardais ça, je disais, c'est fantastique. Souvent, vous savez qu'en Inde, les éléphants, un éléphant, c'est énorme. Un éléphant, c'est fort. Un éléphant, c'est puissant. Mais vous savez que quand un éléphanteau est pris pour être utilisé comme éléphant de service en Inde, quand il est bébé, l'éléphant, il met un petit pieu à terre. Puis l'éléphanteau peut pas tirer le pieu parce qu'il n'est pas assez fort. Puis il grandit. Puis il grandit. Puis il grandit. Puis un jour, il est énorme, l'éléphant. Il peut bouger il peut lever des arbres entiers, l'éléphant. Il peut bouger des pierres épouvantablement grosses. Mais le soir, quand il retourne, ben, il est attaché à ce petit pieu qui n'avait pas changé que depuis qu'il était éléphanteau. Il ne peut pas le bouger. Pourquoi? Mais parce que c'est dans sa tête qu'il peut garder le bouger. La force de l'imagination, la force de nos conceptions ont une emprise sur ce qu'on fait, sur comment on vit. Et pourtant, le Seigneur est venu pour qu'on puisse le servir sans crainte. Sortir de cet enclos, sortir de cette pièce sombre, sortir, réaliser que les liens qui nous attachent ne sont que dans notre tête. Parce que lui, il a tout fait pour nous libérer. D'ailleurs, un des plus beaux passages, ou en tout cas un de ceux qui, moi, me touche le plus, c'est dans Galates, au chapitre 5, au verset 1, où ça dit que c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Mais ça aurait servi à rien, cette libération-là. Si dans notre tête, on est encore dans cet enclos, pensant être incapable de bouger, comme ce lion ou comme cet éléphant qui est capable de bouger, briser des murs, mais qui est attaché à un petit pieu, parce que dans sa tête, il est toujours incapable de bouger ce petit pieu-là. Puis il reste là, bien sagement, bien poliment, attaché à son pieu, alors que s'il voulait, il pourrait s'en débarrasser du pieu. Il est rendu, par nature, il est rendu suffisamment puissant pour lever ça, mais dans sa tête, il est habitué que ce pieu-là, il est inviolable, on peut pas le bouger. Combien de fois, nous-mêmes, on est victime de nos propres conceptions. On est victime de nos propres liens. Hein? Et pourtant, Dieu a tellement de choses à dire sur ces liens. Vous savez, Dieu a tellement de choses à dire sur la crainte, justement. Vous savez, dans Job, il y a un passage qui est très prenant. Dès les premiers chapitres de Job, vous connaissez l'histoire de Job. Hein? Job, c'est un homme qui était intègre, c'est un homme qui était droit. Et puis, à un moment donné, dans l'histoire, dans les livres de Job, je vous encourage à le lire si vous ne l'avez jamais lu. C'est un chef-d'œuvre vraiment littéraire, extraordinaire. Ben, Job est comme l'enjeu d'un dialogue qui se passe entre Satan et Dieu. Et Dieu va dire à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Personne comme lui est intègre et juste comme lui. » Puis Satan va dire, « Enlève-y tout ce que tu lui as donné, puis il va te maudire en face. » Évidemment, ce qui doit arriver va arriver. Dieu donne la permission à Satan de lui ôter tout. Puis Job, plutôt que de maudire Dieu, affermit sa foi. Il souffre, mais il marche dans son intégrité. Mais il va dire ceci, puis c'est un passage qui, moi, quand je le lis, à chaque fois que je le lis, ça vient me chercher, parce que combien de fois on se sent comme Job? Il va dire dans Job 3, 24 à 26, « Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. » Le trouble s'est emparé de moi. Hein, combien de fois est-ce qu'on est dans ce trouble-là, sans tranquillité d'esprit? Puis aujourd'hui, c'est facile. Hein? À l'époque de Job, à l'époque des auteurs de la Bible, on n'avait pas accès à tout ce qu'on a aujourd'hui pour endormir la douleur, pour geler nos craintes, geler nos émotions. Parce que c'est comme si c'était les émotions qui étaient le problème. Les émotions ne sont pas le problème. Les émotions, c'est qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions. On n'a pas appris à s'en remettre à Dieu pour nos émotions. Alors, on les gèle. Un peu comme la douleur, quand on a mal, on va... Mais c'est correct, si tu ne peux pas gérer quelque chose, aussi bien que tu le gèles un temps, mais c'est sûr que si tu veux te sortir de ça, il faut que tu apprennes à gérer tes émotions pour justement pouvoir te sortir et puis avoir besoin de te geler. C'est comme si une béquille, je me suis foulé la cheville, je me suis brisé un os, et là j'ai mes béquilles, et je marche avec mes béquilles, puis je me dis, ben dorénavant, écoute, j'ai eu mal à mon os, j'ai eu mal à ma cheville, fait que je vais toujours marcher avec des béquilles. Non, les béquilles sont bonnes pour un temps, mais tu veux t'en débarrasser un moment donné pour pouvoir marcher sans béquilles. Et donc, Dieu veut nous amener dans ce processus-là où on peut le servir sans crainte. Pas parce que nos émotions ont été gelées. Pas parce que nos peurs ont été enfermées à double tour. Mais parce que j'ai appris à marcher librement. Ça veut dire sans mes peurs, sans mes craintes, sans ce qui vient me tenailler pour marcher avec lui d'une manière libre. Et combien de fois dans l'Écriture, on voit ça dans Deutéronome 1, 27. Déjà au début, premier chapitre du Deutéronome, le Deutéronome qui est comme le summum du Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, c'est le Pentateuque. Et puis le dernier livre du Pentateuque, c'est le Deutéronome. Puis dans le Deutéronome, Dieu un petit peu retrace ce qui s'est passé. Puis dès le premier chapitre du Deutéronome, Dieu va dire, il dit... Quand vous vous souvenez de l'histoire de quand il était juste à l'entrée du désert, de la terre promise, puis il a envoyé des esclaves des espions pour voir la terre promise, et les gars sont venus et ont dit, êtes-vous malade, on ne sera jamais capable de prendre ça. En fait, il y en avait 10 qui ont dit qu'ils ne seraient pas capables de prendre la terre promise, puis il y en a 2 qui disaient, oui, on est capable. Mais la peur, c'est un sentiment tellement puissant que la foule au complet, le peuple au complet a dit, non, on n'est pas capable, on va écouter ceux qui nous disent qu'on n'est pas capable. Mais regardez l'expression qu'ils utilisent dans la Darby, puis ça traduit bien l'hébreu. vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qu'il nous fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer aux mains des Amoréens pour nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur. Nos frères nous ont fait fondre le cœur en disant, c'est un peuple plus grand, de plus haute taille que nous. Les villes sont grandes et murées jusqu'aux cieux, et de plus, nous avons vu là des fils des Anakim. Et je vous dis, ne vous épou... Et moi, donc, ce qui est intéressant, c'est quand les espions sont allés, ils ont vu ça, ils ont fait fondre le cœur. Hein, l'expression, hein, quand on a peur, là, quand on est vraiment hanté, quelque chose nous attise, quelque chose nous effraie, là. Quand on est vraiment effrayé de quelque chose, on a vraiment l'impression que notre cœur est en train de fondre dans nos tripes. Et ça va nous paralyser. Ce qui est intéressant dans ça, vous remarquez, que dans leur perception des choses, c'était imprenable, ce pays-là. Mais dans, rappelez-vous, par exemple, ce qui s'est passé quand Josué, il a pris la relève de Moïse, puis a envoyé lui aussi des espions, il en a envoyé deux cette fois-ci. Les espions ont été voir Rahab. Qu'est-ce que Rahab leur a dit? Dans la DAPI, j'ai pas le verset, malheureusement, mon document s'est pas synchronisé. Mais dans la DAPI, ça dit, nos cœurs se sont fondus parce que vous vous enveniez vers nous. Alors, les peuples de la terre promise, qui voyaient Israël s'en venir contre eux, leur cœur est en train de fondre, ils étaient terrorisés, ils étaient pétrifiés à la vue d'Israël qui s'en venait, parce que Dieu avait déjà fait un travail. Mais qu'est-ce qui a empêché Israël d'aller faire la conquête, d'aller conquérir? Le rapport des 10, on fait fondre le cœur du peuple. Fait que le peuple n'a pas pu monter, conquérir. La peur va nous paralyser dans l'action. Puis souvent, ce qui est le problème avec la peur, c'est pas l'objet de notre peur. Combien de fois, je me souviens, j'avais une amie à moi, en fait, j'avais un couple d'amis qui était parti en Israël, et elle, la pauvre dame, était terrorisée des insectes, et un jour, comme ça, il habitait au troisième étage d'un bloc appartement. Puis en Israël, il n'y a pas vraiment de fenêtre. Hein. Il y a des trucs, hein? Des volets qui se ferment, mais il n'y a pas vraiment de fenêtre. Parce que tu fermes les volets, puis c'est tout. Parce que personne n'a jamais froid, vraiment. Mais il y avait un balcon. Peut-être qu'il y avait des fenêtres, je ne me souviens plus. En tout cas, il y avait des volets, en tout cas, c'est sûr. Il y avait un balcon, et puis là, le balcon était assez haut, tu sais. Puis la femme, elle voit la coquerelle, puis c'est pas des coquerelles. Quand j'ai été là, moi, c'est des coquerelles, je comprends ça. c'est effrayant. Moi, j'ai pas peur des insectes. À un moment donné, je sors le soir, et là, je descends, puis j'arrive dans la rue, puis là, je vois devant moi ce bétail. Je disais, est-ce que c'est un rat? Non, c'est une coquerelle. C'était énorme. Tu sais, c'est vraiment. Et là, la coquerelle te regarde, là, les pattes de même, là. Et elle s'arrive vers toi, tu recules. Tu pourrais l'écraser, tu sais. C'est gros, là. C'est gros. Et là. Quand tu vois ça, tu dis, ça te fige. Et pourtant, c'est ça qui arrive d'une peur comme ça, hein, parce que la coquerelle, elle n'a aucune capacité sur toi. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être effrayé de ça? C'est pas ce que la coquerelle peut te faire. C'est ta réaction. C'est la peur. C'est ton imagination qui va réagir à ça et qui va avoir un effet sur toi. La sueur va te prendre, les frissons, le souffle court, le rythme cardiaque, et là, tu vas avoir peur. Et souvent, ce qui est même dangereux de ce genre de peur-là, c'est que ça va te pousser à faire des actions qui sont encore plus dangereuses que l'animal qui est devant toi. Tu vas sauter. Et c'est ce que la femme disait. Elle dit, si je vois ça, je vais sauter en bas. Mais oui, mais tu as 3 étages. T'as 3 étages devant toi. T'as une croque à beau être grosse, la coquerelle, mais elle s'en fout. C'est pas vrai qu'elle avance vers toi, là. Elle veut juste chercher de la bouffe, tu sais. Elle s'en fout de toi, vraiment. Elle réalise même pas que t'es là, probablement. C'est pas un gros cerveau, cette histoire-là. Hein. C'est capacité d'évaluer de l'entourage. Ça vient-tu me manger ou pas? Non, ok, c'est correct. Tu sais, elle avance, tu recules. Elle avance juste de même. T'sais. Mais tu réalises-tu que c'est plus dangereux de sauter en bas que la coquerelle? Toi, la force de la peur. C'est prêt à te faire affronter une chute de 3 étages versus un insecte que tu pourrais juste écraser. 3 étages en bas, c'est toi qui t'écrases à terre ou tu écrases la... C'est ça la peur. C'est ça la peur, la force de la peur pour venir nous pogner par les tripes et nous faire faire des choses ou nous immobiliser dans l'action. Tout dans ta tête, toute l'imagination, la force de la capacité de s'imaginer des choses qui vont faire en sorte que on va geler sur place ou on va se pitcher en bas d'un 3e étage pour un petit insecte. C'est fort, vous savez, la peur. C'est pour ça que Dieu a beaucoup à dire sur la peur. Parce que la peur, quand on a peur, on peut plus agir. On peut plus même faire confiance en Dieu. Écoutez, Dieu avait dit, va, monte, tu vas voir, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a des fruits, il y a tout ce que tu as besoin. La conclusion des Israélites à cause de la peur, c'est que Dieu les hait. Dieu les déteste. Alors que c'était pas vrai. Dieu les haïssait pas. Au contraire, il y avait un plan de bonheur, il y avait un plan de bonté, il y avait un plan pour leur donner tout ce qu'ils avaient besoin. Mais qu'est-ce que la peur a fait? La peur les a fait douter de l'amour de Dieu pour eux. C'est ça que ça fait, la peur. C'est tellement puissant, la peur, comme cette coquerelle qui me fait pitcher en bas du mur. Comme cette corde qui attache l'éléphant à un petit pieu. Bon, c'est pas la peur, mais c'est quand même ce qu'il y a dans sa tête, dans son imagination, qui pense que cette corde-là est encore impossible de le bouger. Il n'a pas pris le temps, lui, d'analyser. Mais voyons, c'est un cure-dent à la grosseur de l'éléphant qui est rendu. C'est un cure-dent qui l'attache à terre. Chouk, fini. Ah non, lui, il reste là, il ne bouge pas. Il essaie même pas. Non, il reste là, il ne bouge pas. Il ne bougera pas. La peur, ça vient nous chercher comme ça. Comme ce lien-là, comme cette corde qui nous attache, qui nous empêche de bouger. Cette corde, cet enclos qui empêche à l'animal de juste explorer son entourage, comme ces 2 coins de mur qui nous empêchent de sortir de notre coin sombre qu'on s'est donné, cette chambre qui nous empêche de juste vivre la vie que Dieu veut pour nous autres. C'est puissant, la peur. Mais vous savez quoi? Dieu est encore plus puissant. Et il est venu pour qu'on puisse le servir sans peur, sans cette crainte. Et paradoxalement, Dieu nous dit, regarde, on va faire une affaire. Tu veux avoir peur de quelque chose? Crains-moi. Crains-moi. Je te délivre de tous tes ennemis. T'as pas besoin d'être terrorisé de moi, là. Fais juste me respecter, m'honorer. Puis moi, je vais être pour toi, alors que tout le monde va être contre toi. T'as pas à avoir peur. T'as pas à craindre. T'as pas à être pitché en bas d'un 3e étage parce qu'il y a une petite coquerelle devant toi. Tu peux marcher avec assurance dans un monde alors que tu sais qui peut être contre nous si Dieu est pour nous. Nos frères nous ont fait fondre le cœur en disant « C'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Les villes sont grandes et emmurées. » Et là, Moïse va dire « Je vous dis, ne vous éventez pas et ne les craignez point. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. » Deutéronome 1, 27 à 30. Ça, c'est au premier chapitre du Deutéronome. Puis, vers la fin du Deutéronome, il va reprendre essentiellement la même chose, Deutéronome 31, 7 à 8. Et là, Moïse, il réalise bien qu'il est à la fin de son ministère, Il doit passer le flambeau, il doit passer le bâton à un deuxième, à un autre gars qui va prendre sa place, à Josué. Et là, il va parler à Josué puis il va dire ceci. Il lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les mettras en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. Ne crains pas, ne t'effraie point. T'as pas besoin de te laisser surprendre par tes craintes et par tes phobies. T'as pas besoin de te laisser paralyser par ça. Je suis avec toi, dit l'Éternel ton Dieu. Débarrasse-toi de tes phobies. Débarrasse-toi de tes craintes. En terminant, comme on l'a vu ce matin, on en a vu des choses ce matin. On a vu comment est-ce que les émotions pouvaient nous prendre, nous surprendre. Puis une des choses de la réalité humaine, c'est ce qui va donner de la force ou qui va nous incapaciter ou qui va nous fortifier dans ça, c'est souvent comment on perçoit les choses, notre perception. Est-ce qu'on va se croire ou est-ce qu'on va croire ce que Dieu dit des choses? Si on se croit, le pire dans une crainte, savez-vous c'est quoi? C'est qu'on n'a pas peur de la chose elle-même, on a peur de qu'est-ce qu'on va ressentir face à la chose elle-même. On a peur de l'imaginaire. On a peur de ce qui ne devrait pas nous faire peur. Des fois, oui, des fois, c'est légitime. Si c'est un lion qui fonce vers toi ou un ours qui fonce vers toi, bonne idée d'avoir peur. Fuis! Fuyez! Hein? Bonne idée d'avoir peur à ce moment-là, mais sinon, gloire à Dieu. Hein? Laissez-vous pas effrayer. Que Dieu vous bénisse à moi.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.